en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La science informatique a révolutionné nos habitudes de vie. Comment pourrions-nous imaginer à l'heure actuelle faire des recherches sans Internet ? Comment vivre sans carte bancaire ? Ou encore comment faire un diagnostic médical poussé sans radiographie, échographie ou encore IRM ? Dans un colloque organisé par l'Académie des sciences en février 2009, intitulé « Traitement et information », la question centrale est la suivante. Que représente le traitement de l'information aujourd'hui et quels sont les défis posés à la science et à la société ? Canal Académie a fait le choix de scinder ce colloque en deux parties. Retrouvez dans ce premier volet la présentation du sujet par Odile Maki, directeur de recherche émérite au Laboratoire des signaux et systèmes, LSS pour les intimes, et qui participait à l'organisation de ce colloque, membre de l'Académie des sciences. Suivront deux intervenants, Mathias Fink du laboratoire Ondes et Acoustiques de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, membre de l'Académie des sciences. Dans sa communication Ondes, information et renversement du temps, il revient sur un élément clé, les méthodes de communication et les méthodes d'imagerie qui font appel toutes les deux à l'utilisation d'ondes comme vecteur d'information. Puis Olivier Faugéras, professeur à l'ENS à Paris et à l'INRIA Sophia Antipolis, également membre de l'Académie des sciences, il présente sa communication intitulée « Mathématiques et traitement d'images, quelques exemples d'interaction ». Il s'appuie pour cela sur l'imagerie cérébrale. Écoutez dans l'ordre Odile Maki, Mathias Fink et Olivier Faugéras.
Donc je voudrais vous dire d'abord un petit mot pour présenter la journée en élargissant un peu la vision qu'on va avoir et qui va s'approfondir au fur et à mesure des exposés. Donc nous sommes tous conscients que les sciences de l'information sont des sciences jeunes et qui se développent. Et naturellement, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'informatique, puisque chacun est conscient que les outils informatiques ont complètement transformé la pratique de la plupart des professions et même nos habitudes de vie, avec des progrès réels pour la société. Donc on peut citer énormément de domaines. Là, j'en ai écrit quelques-uns, l'architecture, la traduction, la composition musicale, la chimie organique, etc. Tout le monde sait, et même le courtage en bourse, dont on entend parler, et l'éducation, etc. Donc toutes nos tâches maintenant sont, beaucoup de nos tâches sont devenues plus légères et plus efficaces et plus rationnelles et plus fiables grâce à l'informatique. Mais pourtant, il ne faudrait pas pour confondre les sciences de l'information avec l'outil informatique. Pas plus qu'on ne va confondre la théorie des électrons et les ampoules électriques. Alors, à ce propos, l'Académie fait un joli travail, et déjà il y a quelques années, elle s'était souciée de la science informatique. Donc, il est important de comprendre ce que représentent ces sciences. D'autant plus que, comme il a été rappelé là tout de suite, l'ambiance actuelle est un peu à la suspicion envers les progrès de la science. Et bien sûr que toute science qui apporte des progrès peut susciter aussi des craintes si l'usage en est illégitime au niveau éthique. Donc, si on regarde en amont de ces outils et de cette révolution culturelle, on voit qu'il y a la science informatique au sens strict, que je distingue des sciences de l'information. Donc la science informatique avec la logique, la sémantique, l'algorithmique, les preuves de programme, les moteurs de recherche. Et les sciences de l'information comportent aussi d'autres éléments, d'autres disciplines, dont on va plus peut-être parler aujourd'hui, le traitement donc de l'information avec la théorie de l'information, du codage, la théorie du signal, l'automatique, l'analyse et l'interprétation des images, la vision par ordinateur, etc. Ces disciplines nouvelles, il semble qu'aux yeux de beaucoup, elles sont un peu cachées derrière des sciences plus anciennes dont le statut est bien établi au niveau social, en particulier les mathématiques et la physique. Peut-être justement du fait qu'il y a une étroite interaction entre ces trois disciplines, et c'est bien le propos de la journée d'aujourd'hui. En effet, pour concevoir les nouveaux capteurs d'information, il faut parfois descendre jusqu'au niveau de la physique atomique. Pour restaurer des informations qui sont abîmées, distordues, noyées dans du bruit, pleines d'interférences, il faut faire appel à des mathématiques élaborées. Donc ces nouvelles disciplines du traitement de l'information que j'ai brièvement mentionnées peuvent être vues comme diverses branches d'un arbre qui a surgi vers les années 40 et qui a été planté dans un terreau donc mélangé et comprenant l'interface mathématique-physique. Et de plus, comme il vient d'être dit par nos présidents, elles sont caractérisées par une étroite imbrication entre la recherche fondamentale et la mise en œuvre dans des applications concrètes, avec cette particularité que les technologies correspondantes sont mises à la disposition du grand public de plus en plus vite. Donc, avec cette vitesse de mise à disposition, c'est tout un chacun qui est concerné. Nous-mêmes, par exemple, dans l'imagerie de notre corps et l'interprétation des signaux qu'émet notre corps ou les télécommunications que nous utilisons en permanence, la recherche de nos informations avec les moteurs de recherche, le stockage des sources sonores sur notre MDP3 et puis sur les sources vidéo, etc., le guidage de nos engins par observation satellitaire, etc. Donc, je pense que cette journée, c'est une bonne chose qu'elle soit construite, ça a été dit, mais je le dis à ma manière, conjointement par l'Académie des sciences et l'AS2E. Et de plus, il me semble que c'est important de travailler à la visibilité de ces nouvelles disciplines, voire à corriger quelques petites erreurs de conception, afin que les hommes politiques comprennent mieux que l'informatique doit avoir une place dans notre enseignement. Vous savez que c'est en débat actuellement avec la réforme des lycées, hein, vu l'importance croissante que je viens de rappeler dans nos activités. Et je pense que c'est le moment de souligner que l'école française de recherche en informatique, donc plus généralement en sciences de l'information, puisque celle-ci englobe l'informatique, cette école vient d'être honorée, peut-être tout le monde ne le sait pas, par l'attribution du prix Turing à Joseph Sifakis, donc informaticien à Grenoble, et cette distinction est la plus haute distinction dans le domaine de l'informatique au niveau mondial. Et nous espérons que ce fait aidera à augmenter la reconnaissance de nos sciences aux yeux du grand public. Donc, voilà pourquoi ces journées sont bienvenues, mais on n'a pas attendu aujourd'hui pour regarder cette question importante. Et déjà, en octobre 2007, l'Académie avait consacré une après-midi. Alors cette fois-là, c'était donc François Bacelli qui est ici, tu peux lever la main peut-être pour qu'on te voit, qui en était l'organisateur. Et le comité avait choisi de faire un appel d'offres avec une sélection très sévère vers de jeunes orateurs. Donc, c'est toujours cette idée que c'est important, l'image auprès des jeunes. Aujourd'hui, le comité de programme a une ambition différente, présenter un panorama général, synthétique, des développements à la fois théoriques et appliqués, des enjeux et des défis. Et comme vous l'avez vu sur le programme, certainement, et c'est pour ça que vous êtes venus, peut-être pas uniquement, mais en partie, le sujet sera éclairé par des scientifiques parmi les plus prestigieux. Les regards seront croisés avec les diverses disciplines que j'ai citées et puis les approches académiques et techniques. Et donc nous avons même la chance d'avoir un prix Nobel dans la salle. Merci de votre attention.
Je vais commencer cet exposé par vous parler du bruit et de l'environnement. Vous savez que la nature a choisi les ondes pour communiquer des informations entre deux points. C'est le type de phénomène le plus efficace pour échanger de l'information. Et lorsque vous avez un capteur qui reçoit un signal qui vient d'une source, il arrive que ce signal ressemble à un bruit. Et la question, c'est est-ce que la source a vraiment émis un bruit ? Et je voudrais séparer deux types de bruits. Les bruits qui sont vraiment créés par des sources incohérentes. Une source incohérente, par exemple, ça peut être une source sonore ou sismique. Il peut y avoir du bruit créé par la turbulence, par la pluie, dans la mer, par les crevettes, par les vagues. Et en sismique, il y a un bruit qui est créé continuellement par des micro-séismes dans la Terre. Ça, c'est vraiment une source qui est incohérente. En électromagnétisme, il y a aussi des bruits, le bruit thermique, le bruit de grenaille. Et puis, il y a maintenant le bruit des téléphones portables. Il y a tellement de téléphones qui travaillent de façon complètement incohérente entre eux que ça crée un bruit électromagnétique. Bon, alors ça, ce sont des sources de bruit qui, ou que j'appelle des sources incohérentes. Maintenant, lorsque votre capteur reçoit ce bruit peut lui-même se propager soit dans un espace qui est libre et homogène, donc vous recevez le signal tel que la source l'a émis, mais il vous arrive aussi de recevoir ce signal qui est un bruit à travers une propagation dans un milieu très compliqué et réverbérant. Et donc vous allez superposer deux bruits, l'un qui est dû à la source et l'autre qui est dû à la propagation dans un milieu qui a un comportement réverbérant qui crée des bruits. Et je reviendrai là-dessus. Maintenant, vous pouvez aussi recevoir un signal avec un capteur qui ressemble à un bruit, alors que la source qui a émis le signal a émis un signal parfaitement déterministe. Un impact, par exemple, vous envoyez un signal très bref, un petit clic, et quand vous le captez, parce que vous êtes dans un environnement très compliqué, mais vous avez l'impression que c'est un bruit. Et je voudrais donc séparer ces deux types de bruits et vous montrer comment on peut les reconnaître de façon très physique à travers l'invariance par renversement du temps. Alors, je vais passer à cet exemple très simple. Vous avez ici une source qui va émettre un signal très bref qui est déterministe, mais vous allez émettre ce signal à travers un milieu très compliqué, des milliers de tiges de métal réparties de façon aléatoire. Et ici, vous allez avoir plein de microphones et vous allez écouter le son ou les ultrasons émis par cette source. La source émet un petit clic, donc c'est un petit signal bref. Maintenant, lorsque ce signal est émis, traverse ce milieu formé de milliers de tiges, eh bien, le signal va perdre sa cohérence, il va y avoir des phénomènes de diffusion multiple si les diffuseurs ont une section efficace de diffusion importante. Et vous allez vous retrouver avec chaque microphone qui va recevoir un signal qui ressemble à un bruit. La source est déterministe, mais les micros qui captent l'information croient qu'ils ont reçu des bruits. Alors, si on regarde, si vous aviez émis ce petit signal bref dans un milieu de propagation homogène, vous recevez toujours un signal bref. Mais comme vous l'avez émis dans un milieu de propagation fixe, mais qui est compliqué, comme cette pièce, par exemple, qui est magnifique, où il y a plein d'obstacles dans tous les coins, eh bien, le signal que vous captez, ça n'est pas ce bruit, c'est ce signal très long. Et quand vous regardez un bruit comme ça, vous vous demandez quelle est l'information qui est cachée dans ce bruit. Et il y a une façon de comprendre l'information qui est cachée dans ce bruit, c'est de retourner temporellement ce bruit. C'est-à-dire, si votre capteur, qui est au départ uniquement un récepteur, peut aussi marcher comme un émetteur, donc c'est un transducteur réversible, eh bien, tous ces petits bruits que vous avez captés, vous pouvez, après les avoir stockés dans une mémoire, les relire en verlan, c'est-à-dire en renversant exactement la chronologie temporelle des signaux reçus. Et maintenant, vous allez émettre ces bruits et vous allez regarder ce qui revient au point de départ. Et dans notre cas de figure, si on fait cette expérience, le signal qu'on a reçu sur un capteur est un bruit très long qui dure, disons, 200 microsecondes, qui a l'air complètement incohérent. Si on mesure ces fonctions de corrélation temporelle, il n'y a pas de cohérence. Maintenant, quand on a retourné temporellement ces bruits, quand on regarde ce qui revient à la source, on voit un signal bref qui ressemble à un signal quasiment déterministe. Il n'est pas tout à fait bref, il y a un peu de bruit parce qu'on a travaillé sur une bande passante limitée, mais on voit qu'on a recompressé temporellement le signal. Alors ça, c'est une marque intéressante du fait qu'un signal qui était déterministe, qui s'est transformé en un bruit au moment où on l'a capté, par une opération de renversement du temps, lorsqu'il revient à son point de départ, il redevient aussi déterministe qu'il l'était au départ. Et c'est une des choses qui a intrigué certains mathématiciens, comme Georges Papanikolaou, comment on peut transformer des signaux déterministes en des signaux aléatoires et inversement. Et maintenant, on peut aller un peu plus loin. On peut essayer de comprendre pourquoi cette expérience recrée à partir d'un bruit un signal déterministe. Et on peut revenir à ce qui est la base. La base de cette expérience vient du fait que les ondes qui se propagent dans un espace à trois dimensions vérifient des équations d'ondes. Et ces équations d'ondes qui sont un peu maltraitées ici, pour une onde qui se propage dans un milieu hétérogène, ont une propriété importante qui vient du fait qu'on a une dérivée seconde par rapport au temps, c'est qu'il y a invariance par renversement du temps dans l'équation des ondes. Il y a une deuxième propriété importante dans l'équation des ondes qui commence habituellement par une divergence, c'est qu'il y a réciprocité spatiale. Ce sont deux réciprocités différentes. L'une joue sur le temps, l'autre sur l'espace. Et En fait, il y a un concept intéressant qui est celui de cavité à retournement temporel, qui ressemble à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sauf qu'ici, il faut des centaines de transducteurs. Vous avez une source qui envoie un petit signal déterministe. Ce signal passe dans un milieu très compliqué où il s'abîme. Et si vous captez tous ces signaux sur beaucoup de petits microphones, si vous stockez l'information dans des micros, dans des mémoires, si vous relisez ces mémoires en verlan et si vous réémettez ces signaux, eh bien, l'invariance par renversement du temps couplée à la réciprocité spatiale entraîne mathématiquement à la chose suivante, l'onde que vous recréez n'a pas d'autre solution que de revivre exactement sa vie passée. Et donc l'onde va physiquement, en marche arrière, revenir à son point de départ, et comme si ce film repassait à l'envers, mais on le fait physiquement. Mais il y a un problème qui est extrêmement important de comprendre ici, c'est qu'une onde, lorsqu'elle revit sa vie passée, lorsqu'elle revient au point de départ, lorsqu'elle arrive au point de départ, eh bien, une onde ne sait pas s'arrêter parce qu'elle a une célérité. Et donc le film que vous créez là, eh bien, le film renversé temporel de du film initial, mais il y a un collapse et après le collapse, l'onde rediverge à nouveau. Et ça, ça fait que lorsqu'on fait une expérience de renversement du temps, on recrée à la source le signal initial, mais comme il y a une onde convergente et une onde divergente qui sont créées l'une à la suite de l'autre, il y a un effet qui est l'effet de diffraction. Et j'explique ça sur ce petit schéma. Dans un cas idéal d'un milieu homogène, si vous avez une source qui émet une onde, c'est une onde sphérique. Si la source est ponctuelle, on appelle ça la fonction de Green retardée ou la fonction de Green causale. Si maintenant vous captez ce signal avec beaucoup de microphones et vous le retournez temporellement, on recrée une onde convergente qui revient à converger au point de départ, mais cette onde collapse et elle est suivie par une onde divergente. C'est-à-dire que quand on fait une expérience de renversement du temps, on recrée l'onde qu'on appelle la fonction de Green avancée, c'est l'onde convergente, qui est suivie par une fonction de Green retardée parce que toute l'énergie doit repartir. Et il y a un signe moins au passage de la singularité. Et lorsque vous faites ça, ça explique que dans la plus belle expérience de renversement du temps, on ne pourra jamais recréer exactement une onde renversée temporellement. On créera toujours l'onde renversée temporellement moins l'onde qui repart. Et ça, si au lieu d'avoir un signal bref, vous aviez un signal monochromatique, lorsque vous essayez de focaliser une onde monochromatique, c'est-à-dire une onde qui a plusieurs, qui a des tas de sinusoïdes, vous créez une onde convergente qui s'écrit exponentielle moins jkr sur r, c'est la fonction de Green avancée. Mais comme en même temps que vous créez cette onde convergente, il y a un collapse et il y a une deuxième onde qui part, qui est l'onde divergente, avec un signe moins, ce que vous créez physiquement, c'est l'interférence de deux ondes. Et quand vous faites la somme d'exponentielle moins jkr et d'exponentielle jkr avec un signe moins, vous créez le sinus kr sur R. Et le sinus KR sur R, c'est ce qui s'appelle la tâche de diffraction. On ne peut pas créer une concentration d'énergie sur une tâche plus petite que le sinus cardinal, parce que quand vous essayez de faire du renversement du temps, vous créez toujours à côté de l'onde convergente une onde divergente, et les deux interfèrent. Et ça vous donne une formule qui est en fait que vous créez une tâche focale qui est la partie imaginaire de la fonction de Green. Je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai de super résolution pour les télécoms. Juste, tout ce que j'ai dit sur le fait que quand vous faites revivre à une onde sa vie passée, vous n'arrivez jamais à faire revivre à l'onde complètement sa vie passée parce qu'il y aura le collapse de l'onde et l'onde repartira dans l'autre sens, c'est valable pas uniquement pour une onde sphérique, mais pour une onde qui se propage dans n'importe quel milieu hétérogène. Si vous avez une source placée au point R0 qui envoie un clic, si vous avez un milieu hétérogène et vous captez sur tous les capteurs qui sont là des signaux, si vous retournez le temps, eh bien, ce que vous capterez en un point R', ce sera la fonction de Green avancée, c'est-à-dire l'onde qui revient en marche arrière, suivie d'une fonction de Green retardée. C'est important pour ce que je vais raconter tout à l'heure sur la sismologie. Alors, maintenant que j'ai dit ça, revenons à notre expérience. L'expérience que j'ai montrée tout à l'heure était une expérience où je n'avais pas une cavité à retournement temporel, mais où j'avais juste un petit miroir. C'est-à-dire, j'avais un certain nombre d'éléments qui captaient le signal, mais qui n'entouraient pas l'espace. Et quand j'ai émis un signal déterministe, chacun des signaux captés ici était un bruit. Quand j'ai retourné tous ces bruits, j'ai vu qu'ici, je retrouvais un signal déterministe. Mais je peux regarder sur quelle taille ce signal focalise. Et je peux mesurer ce qui s'appelle la tâche focale. Et si je fais cette manip dans un milieu où il n'y a pas de structure aléatoire, un milieu homogène, Eh bien, vous savez que si vous captez une onde divergente qui vient d'un point, si vous la retournez temporellement, elle converge, et la tâche focale, c'est un sinus cardinal, et sa dimension dépend de l'ouverture angulaire et de la longueur d'onde, lambda f sur d. Maintenant, regardez la même manip lorsqu'on a introduit les milliers de tiges, donc un milieu complètement aléatoire. Comme vous avez émis un signal déterministe, vous recevez des signaux aléatoires, et quand vous retournez temporellement ces signaux aléatoires qui sont très longs dans le temps, eh bien, si vous regardez la taille de la tâche focale, pour la même dimension d'expérience, les mêmes distances, vous observez que la tâche focale que vous créez est dans cette manip 35 fois plus petite que la tâche focale que crée le même miroir lorsqu'il est en milieu homogène. Vous découvrez que le fait d'avoir un milieu aléatoire diffus, très large, est très bénéfique pour focaliser une onde. Et ça, ça vient du fait suivant, c'est que lorsque votre source émet une onde, normalement, une onde sphérique dans toutes les directions, cette onde peut être décomposée sur une base d'ondes planes. Habituellement, votre ouverture qui est là ne capte que les ondes planes dans cet angle. Et donc, vous captez seulement ce qu'on appelle un spectre angulaire limité. Et quand vous retournez temporellement ça, ça donne une large tâche focale parce que le spectre angulaire est petit. Maintenant, lorsque vous avez un milieu aléatoire ici, ce que vous avez émis, les ondes planes qui partent dans ces directions, eh bien, elles sont redirigées par l'interaction avec le milieu vers le miroir à retournement temporel. Et quand vous retournez temporellement les signaux qui durent très longtemps dans le temps, eh bien, ces signaux vont revenir rendre le milieu lui-même une lentille. Et en fait, c'est comme si tout ce milieu était devenu le miroir à retournement temporel, alors que mon miroir est beaucoup plus petit. Et l'angle qui est là, c'est l'angle qui va me donner la taille de la tâche focale. Et ça, ça marche physiquement, et ça a pas mal intrigué, je dirais, mes collègues mathématiciens de comprendre ça. Et donc, la manip peut aller plus loin. Est-ce que si j'ai un milieu compliqué comme ça, si je n'ai qu'une antenne ponctuelle, c'est-à-dire qui est omnidirectionnelle, est-ce que ça marche aussi? Eh bien, ça marche aussi, c'est-à-dire que vous trouvez que lorsque vous faites du retournement temporel à travers un milieu qui a une structure aléatoire, la résolution ne dépend plus de la taille du miroir, elle ne dépend que de la taille du milieu aléatoire. Et vous pouvez avoir une résolution de l'ordre de la demi-longueur d'onde. Et je vous montrerai que si maintenant la source est immergée elle-même dans le milieu aléatoire, vous pouvez avoir des tâches focales beaucoup plus petites que la longueur d'onde, et vous pouvez avoir ce qui s'appelle la super-résolution. Mais ici, je m'arrête là, à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais juste vous montrer que cette expérience peut donner lieu à une manip de communication, de télécom. Et on a fait ça au labo, d'abord dans le domaine des ultrasons. On s'est dit, voilà, on a une antenne formée de 20 éléments, et on veut envoyer des messages à 5 personnes différentes, placées assez près l'une de l'autre. Et on voudrait envoyer ces messages soit dans un milieu homogène, soit à travers ce milieu multidiffuseur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on apprend à envoyer des messages à chaque personne par retournement temporel. C'est-à-dire qu'on demande à chaque personne d'envoyer d'abord un clic pour s'identifier. Elle envoie son clic. Ici, on capte des codes spatio-temporels et on les retourne temporellement. Donc ces codes vont se recompresser pour recréer un signal déterministe ici. Et on apprend pour les 5 récepteurs, on leur demande de nous envoyer d'abord un code d'identification. Et on fait ça soit à travers un milieu hétérogène, soit à travers un milieu homogène. Et après, on va envoyer des informations par une modulation qui peut être n'importe quelle constellation de signaux. Ici, ça peut être des codes binaires de phase avec des plus 1, moins 1 qu'on va envoyer à chaque personne. Et lorsqu'on fait de la communication brute de forge, c'est-à-dire je ne rajoute pas de turbocode ou d'idées nouvelles, mais j'utilise seulement le retournement temporel à travers le milieu et je compare le taux d'erreur que je fais lorsque j'envoie 2000 bits d'information à 5 personnes différentes, c'est-à-dire j'envoie 10 000 bits d'information. Je regarde le taux d'erreur que chacune de ces personnes reçoit, soit si j'ai fait la manip dans un milieu diffuseur, c'est-à-dire ce milieu qui casse toutes les ondes, soit si je la fais en milieu homogène. Et je constate qu'en milieu homogène, quand j'envoie de l'information à une personne, le voisin, il y a beaucoup de bruit, le voisin aussi a beaucoup de bruit, et je vois qu'il y a beaucoup plus d'erreurs quand j'envoie de l'information en milieu homogène qu'en milieu diffusif. Et ça, ça s'explique par le fait que, grâce au milieu multidiffuseur, la tâche focale que je reconcentre est beaucoup plus fine à cause de cet effet d'ouverture angulaire agrandi. Et je suis donc capable, sur les 5 personnes qui étaient très proches, ou les 5 capteurs, de leur envoyer à chacun des signaux qui focalisent sur chacun d'eux sans baver sur les voisins. Et donc j'ai beaucoup moins d'interférences et je ne crée pas ce bruit d'interférence qui fait que ce qui était mis à l'un bave sur ce qui est sur le voisin. Alors ça, c'est intéressant de montrer comment la diversité spatiale produite par un milieu multidiffuseur peut permettre d'envoyer plus d'informations dans un milieu. Alors, ce que j'ai raconté, c'est pour un milieu très particulier qui était formé de milliers de tiges aléatoires, et ça ressemble à une forêt, mais on n'a pas toujours ça dans la nature. Par contre, dans la nature, on a souvent un autre problème, c'est qu'on vit dans des pièces ou dans des environnements réverbérants. Quand vous envoyez des ondes électromagnétiques dans une salle ou dans une ville, les ondes électromagnétiques passent leur temps à cogner les murs et à rebondir. Et donc, vous avez le même effet en milieu réverbérant. C'est-à-dire, si vous avez quelques capteurs, et ici, une source qui émet un signal bref, déterministe, quand vous regardez ce que les capteurs reçoivent, ici, j'ai mis mes capteurs dans une cavité que je peux qualifier d'ergodique. C'est-à-dire, si je garantis que tous les rayons que j'émets au bout d'un certain temps, vont passer aussi près que je veux de chaque capteur, dans une pièce réverbérante comme ça, quand j'envoie un signal bref, eh bien je vais capter des signaux très longs qui ressemblent à des bruits, et si je les retourne temporellement, eh bien je vais réémettre des ondes qui vont me donner l'impression de revenir d'un haut-parleur qui est là, alors qu'il n'y a pas d'haut-parleur, il y a juste une condition limite. Et je peux donc bâtir des cavités à retournement temporel, même si je n'ai que très peu de capteurs qui physiquement font le renversement du temps, mais si j'ai des conditions aux limites réverbérantes. Et ça a été testé en mer d'abord, voilà, quoi, d'abord dans notre labo, puis après en mer. Voilà une petite antenne de 78 mètres de long qui travaille à 3,5 kHz, c'est le domaine du sonore. La longueur d'onde est de 50 cm et on va l'immerger dans la mer. Et vous allez écouter ce petit bruit. Ici, on a 10 km de distance entre la source qui est mise dans la mer et l'antenne qui est placée là. Et ici, on est sur le plateau continental près de l'île d'Elbe. Et on émet un petit bruit. Et puis, 10 km plus loin, nos antennes reçoivent le signal que je viens de vous passer. Vous avez peut-être entendu le bruit. Ça, c'est la réverbération dans le milieu. Maintenant, si vous prenez ces signaux, si vous les renversez temporellement, vous les réémettez physiquement, et si vous écoutez ce qui revient au point de départ, on reçoit le petit signal déterministe. Donc ça, c'est pour vous montrer que ça marche en mer. Et en fait, ça marche bien en mer sur des distances de l'ordre de 10 km, même de 30 km. Et je vous montre aussi la taille de la tâche focale. C'est assez impressionnant. Vous avez ici 10 km de distance. Vous avez une source qui émet un petit son. La longueur d'onde est de 50 cm. Il est capté ici, il réverbère. On le retourne temporellement et on regarde sur quelle taille il focalise. Et il focalise sur 30 cm, c'est-à-dire que le petit signal déterministe revient juste sur une dimension qui est la demi-longueur d'onde. Et donc, bien qu'on soit à 10 km, quand maintenant on va convoluer ça par une série d'informations, seul le petit plongeur ou le petit véhicule va recevoir de l'information et on aura créé un canal d'information extrêmement focalisé et efficace au niveau rapport signal à bruit. Il faut le renouveler si la mer change, mais en fait, ça résiste très bien au changement de la mer. Mais ça, je n'ai pas trop le temps d'en parler. Maintenant, dernière chose avant de passer à la sismologie, petite expérience. Peut-on faire du retournement temporel juste avec une antenne ? Donc on n'a plus besoin de 5 ou de 28 antennes ou de 128 antennes. On peut le faire si on est bien dans une cavité fermée. Et voilà une petite manip dans une petite cavité qui est en silicium, où on va émettre des ondes élastiques en donnant un petit coup de marteau ici au point A. Si on a une cavité qui a une forme ici, c'est un D, ça ressemble à la lettre D, c'est une cavité chaotique qui a des bonnes propriétés d'ergodicité, si vous émettez un petit clic très bref, le point B reçoit un bruit. Et vous avez une correspondance qui fait que chaque vecteur K émis, au bout d'un certain temps, est capté dans la fenêtre. Donc on a une espèce de couplage entre toutes les directions d'espace. La diversité d'espace se transforme en une diversité temporelle. Et ici, on reçoit à un temps différent des signaux. Et donc, si vous captez ce bruit sur un temps suffisamment long pour que tous les vecteurs K aient eu le temps d'arriver, et ce temps s'appelle pour une cavité le temps de Heisenberg de la cavité, c'est l'inverse de la distance entre deux modes dans la cavité, quand vous avez capté cette signature, vous avez tout ce qu'il faut pour refocaliser au point A comme si vous aviez des capteurs dans tout l'espace. Et en fait, La manip est la suivante, on donne un petit coup qui dure une microseconde, on capte un bruit qui est très long dans cette cavité qui dure 30 millisecondes, on prend juste le bruit sur un temps qui est le temps de Heisenberg et on prend ce bruit n'importe où parce qu'il y a une redondance, la réverbération dure très longtemps et il suffit de prendre juste cette durée de bruit. Maintenant, quand vous avez ce code temporel, si vous le retournez temporellement, vous garantissez qu'il va revenir en marche arrière et refocaliser au point de départ. Et d'ailleurs, quand le réémet, si on regarde juste la tête du signal, ça c'est une expérience, on utilise un interféromètre optique pour voir comment les ondes reviennent, c'est des ondes élastiques au point de départ, on voit que quand réémet ce bruit, il y a un moment donné magique où tout ce bruit se reconverge. Mais vous voyez qu'en fait, il y a une onde qui converge et il y a une onde qui diverge. Je reviendrai là-dessus. Et c'est l'effet du retournement temporel. Alors maintenant que j'ai dit ça, il y a des très belles applications de ça. On a d'ailleurs créé une société qui s'appelle Sensitive Object pour transformer les objets de la vie courante en des objets tactiles. Le bruit qu'on crée par retournement temporel est relocalisé et on peut transformer des objets. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais je voudrais vous parler de quelque chose de très joli qui est très à la mode à l'heure actuelle en sismique. Bon, alors la tâche focale est très belle, je n'insiste pas. Mais je voudrais vous parler de la relation entre retournement temporel et ce qui s'appelle diffusive noise correlation imaging. Qu'est-ce que c'est ? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des signaux qui ressemblaient à des bruits, mais qui n'étaient pas des bruits, parce qu'ils venaient de signaux déterministes. Si je les retourne temporellement, ils redeviennent déterministes. Mais il y a aussi des vrais bruits qui viennent de vraies sources incohérentes. Et aujourd'hui, il y a un domaine extraordinaire qui est en train de naître, qui s'appelle la sismologie passive, où on écoute seulement les bruits de la Terre. On n'écoute plus les gros tremblements de terre, mais on écoute les bruits. Et on les écoute avec tous les géophones qui sont sur la Terre, tous les sismogrammes. Et on arrive à reconstruire l'intérieur de la Terre. Et je voudrais vous expliquer cette idée à partir du retournement temporel. Vous vous rappelez, dans une cavité à retournement temporel, si j'ai une source au point R0 qui émet un clic, si je capte au point R ce signal, qu'est-ce que je capte ? Je capte la fonction de Green de R0 vers R et je la capte au cours du temps. Si maintenant ce signal, je le retourne temporellement, je le remets avec un signe moins et puis j'ai attendu un temps grand T pour que ce signal soit arrivé là. Donc c'est ce que j'ai obtenu, j'ai fait clic, ici je reçois un espèce de bruit qui est ça, au point R, et maintenant je le retourne temporellement. Et maintenant si je regarde ce qui revient au point R', je dois convoluer ce signal que je réémets par la réponse entre R et R', c'est-à-dire par la fonction de Green de R' à R. Donc une expérience de retournement temporel vous donne un champ que j'appelle le champ retourné temporellement au point R', au temps T', qui est proportionnel à ce produit de convolution de la fonction de Green entre R et R' et de la fonction de Green entre R et R0. Rappelez-vous aussi qu'il y a réciprocité spatiale, c'est-à-dire que la fonction de Green de R0 à R ou de R à R0, c'est la même chose. Maintenant, ça, c'est une expérience de retournement temporel qui vous donne ça. Maintenant, regardez une expérience très différente, qui est une expérience de corrélation. Cette fois-ci, je n'ai plus de retournement temporel, j'ai juste une source. Ma source est au point R. Pour le moment, ma source émet un Dirac. Après, je lui ferai émettre un bruit. Maintenant, ma source émet un Dirac et je regarde le signal émis par ce Dirac observé au point R0 et au point R'0. J'ai deux observateurs placés en ces deux points. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais comparer les signaux émis par les deux points et je vais faire la corrélation entre les deux signaux. Donc, je vais calculer la corrélation entre l'observateur situé en R0 et R' au cours du temps. Et cette corrélation vaut par définition la fonction de Green de R à R' convolué par la fonction de Green de R à R0 avec un moins T. Ça, c'est l'intercorrélation. Mathématiquement, ça et ça, c'est la même chose, à un temps T près, parce que j'ai réciprocité spatiale. Donc, je vois qu'une expérience de retournement temporel avec un miroir à retournement temporel formé d'un point, c'est la même chose qu'une expérience de mesure des corrélations de champs venant d'un point. Le point ici émettait un Dirac. Mais maintenant, imaginez que ce point n'émette pas un Dirac, mais émette un bruit. Mais cette fois-ci, un vrai bruit, c'est-à-dire un bruit d'une source thermique ou d'une source incohérente ou un bruit de la terre ou un bruit des crevettes dans la mer. Eh bien, si vous regardez les deux bruits que vous avez sur les deux observateurs, si le bruit que vous avez est incohérent, vous pouvez maintenant regarder la corrélation entre ces deux bruits et vous mesurez l'intercorrélation entre les deux bruits. Cette intercorrélation, ça va être la fonction de Green que multiplie un des bruits, convolue avec la fonction de Green retournée temporellement que multiplie l'autre bruit. Et si les deux bruits sont incohérents, vous voyez que en mesurant l'intercorrélation entre R0 et R', vous observez exactement la même chose que la tâche focale spatio-temporelle d'une expérience de retournement temporel à un transducteur. Et Ça, c'est important. Et alors maintenant, si votre source de bruit, ce n'est pas juste un point, mais c'est plein de points, si vous avez plein de points qui émettent des bruits incohérents entre eux, et si vous êtes dans un espace clos où il y a de la réverbération, si vous regardez entre R0 et R' les deux bruits, si vous les intercorrélez, eh bien, mathématiquement, vous allez retrouver ce qui est écrit là. Et ce qui est écrit là, c'est ce que donne une expérience de retournement temporel conduite par un miroir à retournement temporel de grande taille, alors que la source était en R0 et le récepteur en R'. Et si vous regardez ce que c'est, ça n'est rien d'autre que la fonction de Green entre R0 et R', retournée temporellement, moins la fonction de Green normale. Normalement, quand on fait de la sismique, on fait de la sismique active, on tape à un endroit et on mesure à l'autre endroit, et on a donc la fonction de Green, et si on tape à différents endroits, on a plein de fonctions de Green et on peut faire de la tomographie. Mais imaginez que vous ne pouvez pas taper, mais que vous n'avez que des bruits qui viennent de toutes les directions de l'espace. Eh bien, au lieu d'avoir une source active et un récepteur, il suffit d'avoir deux récepteurs, et vous corrélez ces bruits. Et en corrélant ces bruits, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez que l'intercorrélation entre les bruits, c'est la fonction de Green causale moins la fonction de Green anticausale. C'était exactement ce que j'expliquais en expliquant que dans une manip de retournement temporel, il y avait toujours une onde convergente suivie par une onde divergente. Et si vous avez ça, vous pouvez séparer la partie gauche de la partie droite et vous retrouvez les fonctions de Green. Et donc aujourd'hui, le premier qui a fait des belles expériences, c'était Weaver. Il a pris juste le bruit des phonons qui existent dans une plaque de métal. Il a écouté avec deux capteurs ces bruits. Et il a intercorrélé les bruits et il a retrouvé la fonction de Green entre le point A et le point B. C'est-à-dire qu'il a retrouvé toutes les réverbérations. Et donc juste en enregistrant des bruits, on peut retrouver les réverbérations et donc on peut créer un système d'imagerie passif. Et dans le Soleil, aujourd'hui, la turbulence de la couche de convection du Soleil crée un bruit incroyable, très basse fréquence. La période est de l'ordre de 5 minutes. Lorsqu'on utilise un télescope Doppler qui fait l'image de tous les bruits à la surface du Soleil, on a tous ces bruits et on peut mesurer les intercorrélations entre les bruits et on retrouve les fonctions de Green entre ces points. Et on peut reconstruire comme ça l'intérieur du Soleil. Et ça a été généralisé maintenant au bruit d'abord à des ensembles de tremblements de terre créés par exemple sur la côte du Mexique, en prenant tous les tremblements de terre, en les cumulant et en écoutant tous les bruits et en les intercorrélant, avec deux stations, plusieurs stations, on peut reconstruire les fonctions de Green. Et ça a été fait de façon magnifique en Californie, en utilisant le bruit des vagues qui tapent sur les côtes de la Californie, qui s'appelle le HUM, qui fait qu'il y a un bruit sismique continuel. En prenant 300 stations et en enregistrant toutes les traces qui existaient depuis des centaines de mois qui étaient captées dont on ne faisait rien, on a repris toutes ces traces, on les a intercorrélées, et bien on a pu retrouver toutes les fonctions de Green de l'intérieur de la Californie et reconstruire l'image de la Californie. Et je m'arrêterai là, je n'ai pas le temps de parler de super résolution, mais je voulais vous montrer comme quoi les deux types de bruits, les bruits créés par la complexité d'un signal et les bruits créés par des vraies sources thermiques, comment on pouvait les mélanger, et cette méthode d'imagerie passive est un bel exemple de cette utilisation. Voilà, je m'arrête là. Merci.
Alors, la segmentation d'image, c'est, comme je vais vous le montrer, un problème qui est assez mal posé, mais qui a une très longue histoire, en tout cas au niveau des STIC. Disons que ça a commencé dans les années 70 avec un certain nombre de chercheurs informaticiens, traiteurs de signal. Et donc, voilà un premier exemple de problème de segmentation d'image. Vous avez des images dites naturelles, c'est-à-dire représentant notre environnement. Et puis, vous avez ici des segmentations qui ont été faites à la main par des étudiants de l'université de Berkeley. Et vous voyez qu'il y a une assez grande variabilité entre les différentes segmentations. Donc, c'est un problème qui, même pour un être humain, n'est pas bien posé. Un autre exemple d'image, j'allais dire non naturel, c'est l'intérieur de notre crâne, c'est l'image d'un cerveau. Donc trouver à l'intérieur de ces images des zones pertinentes, en un certain sens, là encore, c'est quelque chose qui est assez mal posé. Alors, je vais prendre une définition un peu mathématique. Une segmentation d'image, c'est diviser l'ensemble des pixels ou des voxels, si on a une image tridimensionnelle, en un ensemble d'une partition, des sous-groupes qui correspondent soit à des objets réels, soit à des organes, si on fait de l'imagerie médicale, et également les frontières de ces objets. Alors, je prends un premier exemple, les travaux de Pavlidis dans les années 72, un algorithme très simple de regroupement de régions. On part du pixel et on commence à regrouper les pixels les uns avec les autres en satisfaisant un certain nombre de conditions. À l'époque, c'était complètement heuristique. Néanmoins, Jean-Michel Morel et son collaborateur Solimini, dans un de leurs livres qui est sorti en 1995, ont montré qu'effectivement, il s'agissait d'un problème de minimisation d'un certain critère, d'une énergie. Et donc, la mathématisation du problème de la segmentation d'images fait son apparition au travers de ce premier résultat. Alors, continuons un petit peu dans le temps. Bryce et Fenema, l'algorithme du phagocyte, qui est une généralisation d'algorithmes précédents. Je n'ai pas le temps de m'appesantir sur les détails. Mais disons que là encore, il s'agit de l'optimisation d'un certain critère, d'une certaine énergie, qui dépend essentiellement des pourtours, des contours des objets dans l'image. Et comme nous allons le voir, c'est une version primitive de ce qu'on appelle aussi la technique des snakes, la technique des serpents, qui est beaucoup mieux formalisée aujourd'hui. Alors, quelques années plus tard, en 85, David Mumford, qui est un mathématicien, donc a formalisé avec un de ses élèves Sha, de manière beaucoup plus approfondie, le problème de la segmentation en l'exprimant de manière très précise comme un problème de minimisation à partir de l'image, de son gradient. Donc on veut que le gradient de l'image, les variations de l'intensité soient faibles à l'intérieur des régions. On veut que le pourtour des objets soit pas trop long, c'est-à-dire qu'on veut éviter les fractales, par exemple, pour les contours. Et puis on veut également que l'image moyenne, l'image soit aussi proche que possible à l'intérieur des régions d'une certaine moyenne. Et donc ce problème a été étudié d'un point de vue théorique par Mumford et ses collaborateurs. Mais finalement, c'est un problème difficile, puisque encore aujourd'hui, on sait peu de choses sur les solutions de ce problème, c'est-à-dire les segmentations possibles d'une image donnée. Alors, on sait que, notamment au travers des travaux de Morel Solimini et d'Aubert Kornprobst, qu'il existe des segmentations minimales, c'est-à-dire qui minimisent le critère donné, que l'ensemble de ces segmentations est petit, donc les étudiants de Berkeley devraient aboutir à un petit nombre de solutions, que les frontières de ces régions sont régulières, elles ont une longueur finie, et que, là encore, la frontière totale peut se définir comme une courbe unique rectifiable. Alors, maintenant, du point de vue algorithmique, du point de vue informatique, comment peut-on trouver ces solutions si on ne peut pas faire appel toujours à des étudiants de Berkeley ou d'ailleurs ? Et donc, en particulier, De Giorgi, qui est un mathématicien italien, a montré qu'en utilisant des techniques de gamma convergence, on pouvait garantir la convergence de l'algorithme vers l'une des solutions du critère. Alors par contre, et c'est important pour les exemples que je montrerai tout à l'heure, on ne sait pratiquement rien de l'équivalent en 3D, c'est-à-dire pour des images volumiques, ou 3D plus T pour des séquences d'images volumiques. Quelques éléments se trouvent dans un livre récent publié il y a quelques années par Guy David, mathématicien à l'université d'Orsay. Alors, on s'intéressait aux régions, l'approche duale c'est de s'intéresser aux contours, donc ce qui s'appelle dans le jargon c'est les snakes, les serpents. Alors pourquoi les serpents? L'idée est simple, c'est qu'on va chercher à optimiser les contours des régions en les faisant varier. Alors comment les faire varier? Eh bien, on va là encore poser un critère énergétique sur ces contours, c'est le contour. Ce critère est la somme de deux termes, une énergie interne qui fait intervenir la longueur et la courbure de ces contours, on veut que les contours ne soient pas trop chahutés, et puis une énergie externe qui, en gros, est liée à l'image. Et donc, une fois qu'on a posé le problème en ces termes, On peut essayer de minimiser le critère correspondant en utilisant des techniques classiques, les équations d'Euler-Lagrange, mais on tombe très rapidement et très naturellement sur des problèmes numériques très complexes, qui n'ont pu être résolus qu'en faisant deux choses. La première chose, c'est en rendant le critère intrinsèque, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de la paramétrisation des courbes utilisées, et c'est ce qu'ont fait Cazalès, Kimmel et Sapiro, en définissant finalement une métrique dans un espace qui est un espace riemannien, et c'est une notion très importante pour cet exposé. La notion de géométrie riemannienne est centrale au problème de la segmentation d'images et plus généralement au problème du traitement d'images. La deuxième idée, c'est celle qui est due à deux mathématiciens français, Dervieux et Thomasset, qui n'ont pas fait beaucoup de publicité malheureusement, et l'idée a été reprise quelques années plus tard par deux Américains, Osher et Setian. L'idée est très, très astucieuse, puisqu'on va faire évoluer les contours dans l'image, voilà un contour qui est un cercle, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes numériques malgré la géométrie riemannienne. Eh bien, l'idée de Dervieux et Thomasset, c'est au lieu de faire évoluer ce cercle, cette courbe, on va faire évoluer une surface dans l'espace, on rajoute une dimension, et l'intersection de cette surface avec un plan donné, c'était précisément la courbe. Donc cette idée est particulièrement peu naturelle, mais d'un point de vue numérique, elle permet de remporter la mise. Alors, autre idée très importante qui est derrière tout ça, c'est que quand on regarde l'équation dérivée partielle satisfaite que doit satisfaire cette surface, eh bien c'est une équation très compliquée, mais dont on peut montrer que, et là on fait appel également à une théorie mathématique tout à fait contemporaine, c'est la théorie des solutions de viscosité. Donc il y a une solution de viscosité unique à cette équation, donc elle est bien posée dans un certain espace de solution, et l'algorithme de Dervieux-Thomasset permet de garantir qu'on va converger vers cette solution qui peut avoir certaines irrégularités. Alors, un exemple, là je passe à la segmentation 3D, en trois dimensions. Je vais montrer, le problème c'est de retrouver à partir d'imagerie de résonance magnétique, la forme très subtile du cortex. Donc, l'algorithme qui a été développé par deux étudiants, Ponce et Segone, procède en trois ou quatre étapes. La première consiste précisément à trouver... Vous avez vu l'évolution de la surface, à trouver l'extérieur du cerveau. Ensuite, on va trouver, par une même technique, une description un peu grossière de l'extérieur de la masse corticale. On va également classer les tissus en trois ou quatre classes différentes. Et l'aboutissement de tout ça, c'est qu'on a un algorithme qui permet de trouver la géométrie extrêmement complexe du cortex de cette personne. Ça marche aussi pour des animaux, en particulier des primates non humains. Voici un cerveau de macaque dont la complexité est moindre que celle du cerveau humain, mais dont la géométrie a été obtenue, là encore, par l'évolution de ces surfaces. On peut généraliser ces idées, et c'est important pour beaucoup d'applications médicales, à des courbes. Donc jusqu'ici, j'ai parlé de surfaces dans l'espace ou de courbes dans le plan, qui sont des ensembles de codimension 1. On peut généraliser ça, et c'est important pour modéliser des artères, par exemple, à des courbes, c'est-à-dire des ensembles de codimension 2 dans l'espace. Donc je vous ai parlé de régions, je vous ai parlé de contours. Naturellement, on a envie d'unifier les deux approches, et c'est ce qui est connu sous le terme de région active. L'idée est là encore d'écrire quelque chose qui représente une énergie qu'on va chercher à minimiser, et cette énergie va prendre en compte à la fois les contours de la région et aussi ce qui se passe à l'intérieur. On est très naturellement amené à calculer, pour minimiser cette énergie, la dérivée de ce critère par rapport à la forme de la région. C'est une idée très intéressante, puisque naturellement interviennent ici des idées de dérivée de forme. Donc cette idée de dérivée de forme a été inventée par Jacques Solomon Adamard notamment, plus récemment par des mathématiciens comme Delfour, Zolesio, et tous les travaux sur l'optimisation de forme, qui sont donc centraux aux idées qui président à ces nouveaux algorithmes de segmentation. Alors je vais vous montrer ici, le problème, c'est un problème un peu d'école, académique si j'ose dire, de retrouver ces quatre régions. On va faire évoluer deux courbes qui se déplacent dans le plan en cherchant à minimiser le critère précédent et qui viennent découper assez finement les contours des quatre régions. Donc là, il y a une coopération entre l'aspect contour, snakes, et l'aspect région, Mumford-Shah, si vous voulez. Alors, si on cherche à aller un petit peu au-delà de l'intensité lumineuse propre, on peut être intéressé par la couleur, la texture, qui sont des attributs très intéressants, très importants. Et on voit apparaître immédiatement un objet très intéressant qui s'appelle le tenseur de structure, qui est cette matrice symétrique positive. Et là, inexorablement, inéluctablement, intervient l'espace hyperbolique dont on a parlé tout à l'heure. Ces objets vivent dans le disque de points carrés. Et donc toute la théorie des isométries du plan hyperbolique, les groupes fuchsiens, ont un rôle à jouer qu'elles ne jouent peut-être pas encore suffisamment, mais qui est fondamental. Alors, la troisième dernière partie de mon exposé concerne l'imagerie, spécifiquement l'imagerie du cerveau et l'imagerie du tenseur de diffusion. Voici un exemple que je trouve magnifique d'un certain nombre de fibres nerveuses. Il y en a très peu par rapport à ce qui existe réellement, qui constituent donc l'intérieur du cerveau humain et qui permettent de communiquer entre ces différentes zones. La couleur permet de quantifier un certain indice, une certaine mesure d'isotropie ou d'anisotropie plutôt. Et donc la modalité de mesure ici, c'est le tenseur de diffusion. Nous avons parmi les membres de cette académie l'un des co-inventeurs de cette technique, Denis Le Bihan. Donc en mesurant la façon dont les molécules d'eau diffusent dans le cerveau sous l'action de gradient du champ magnétique, on peut, dans une certaine mesure, remonter à la structure très complexe du réseau de communication qui permet aux aires cervicales de communiquer les unes avec les autres. On part d'images de ce type-là qui sont obtenues par résonance magnétique. On fait un certain nombre de traitements et on obtient des images qui sont des images tensorielles, c'est-à-dire qu'en chaque voxel, l'information est représentée par en fait une matrice symétrique définie positive qu'on peut représenter par un ellipsoïde dont les directions principales donnent la direction les directions de diffusion privilégiées, donc la direction des fibres locales. Et là encore, c'est ça qui est très, très, très curieux, très intéressant, c'est que puisque les tenseurs de diffusion sont des matrices symétriques définies positives, de nouveau on se trouve confronté à l'utilisation de la structure riemannienne de ces espaces hyperboliques. J'ai représenté ici une tessellation à l'aide d'odécaèdres de points carrés de l'espace tridimensionnel ici. Donc c'est central dans l'analyse de ces images et c'est naturellement pas encore suffisamment exploité. On peut néanmoins aboutir à des algorithmes de segmentation d'images, puisque c'est mon propos aujourd'hui, en utilisant ce formalisme de région active appliqué à cet attribut tensoriel. Donc c'est un outil très précieux pour l'analyse de ces images tensorielles. Je voudrais terminer mon exposé en faisant quelques remarques sur les impacts sociétaux de cette recherche qui est à la frontière entre, disons, les neurosciences et le traitement d'images. Donc il est clair que la demande, et ce sera peut-être l'objet d'une partie de la discussion lors de la table ronde cet après-midi, il est clair que ces problèmes font l'objet d'une demande sociale extrêmement pressante en tout ce qui concerne les maladies mentales dégénératives, la dépendance, les handicaps physiques et sensoriels, certaines démences. Et donc les outils dont j'ai parlé peuvent être utiles pour répondre à certaines de ces questions. Il s'agit bien entendu d'essayer de mieux comprendre certaines fonctions cognitives de base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception visuelle, mais il y en a beaucoup d'autres. La plasticité cérébrale chez l'adulte, qui est fondamentale en ce qui concerne le vieillissement. Et il y a un certain nombre d'applications aussi de ces techniques à l'éducation des enfants, à la rééducation des adultes qui ont été handicapés. Je voulais aussi commencer à montrer quelques exemples de prothèses qui sont, à la frontière entre les sticks et le traitement d'image. Deux prothèses ici, une prothèse corticale qui permet donc implantée dans le cortex de l'adulte et qui permet dans une certaine mesure de réhabiliter certains paraplégiques ou quadriplégiques. Donc c'est le travail de Horberg. Le travail de David Guiraud, français travaillant à Montpellier, permet également, en implantant une prothèse qui va aller stimuler une partie de la moelle épinière, de venir en aide dans une certaine mesure, on espère que ça va s'améliorer, de venir en aide donc aux tétraplégiques. Le retour vers les sciences et technologies de l'information et de la communication de ces techniques de neurosciences ou d'études des signaux cérébraux. Deux exemples ici qui sont des exemples tirés de la recherche en France. Ici, vous avez Simon Thorpe, qui est directeur de recherche au CNRS à Toulouse et qui a mis au point des nouvelles machines de traitement de l'information sensorielle, notamment visuelle. Ici, c'est le flux optique, qui sont complètement neuro-inspirés. Il a créé d'ailleurs une société qui s'appelle SpikeNet. Également, dans le sud de la France, Nicolas Franceschini, depuis des années, construit des merveilleux neurobots ou biorobots qui sont basés sur une étude très méticuleuse du système de perception visuelle de la mouche et de l'abeille. Également, dans un projet européen dans lequel je suis très impliqué, les partenaires construisent une machine informatique dont le fonctionnement n'a rien à voir avec les ordinateurs dont nous avons l'habitude, dont je suis en train de me servir en ce moment, puisqu'il est complètement basé sur l'utilisation en mode analogique du fonctionnement de neurones ici, donc des neurones à impulsion, dont on peut traduire le comportement dans le silicium de manière analogique, d'ailleurs c'est très intéressant, et non pas numérique. Et on aboutit donc à une machine dont les représentations de l'information sont très différentes de celles qui sont utilisées dans un ordinateur classique, puisque la théorie des systèmes dynamiques est vraiment centrale l'appeler un ordinateur. Je terminerai par ces deux transparences sur un domaine très important, je pense, qui est celui de l'interaction homme-machine. Vous avez ici une personne qui porte un casque EEG, donc il y a une centaine, voire quelques centaines d'électrodes, qui permettent de mesurer. Donc, c'est les capteurs dont parlait Matthias Fink, c'est pour ça que son exposé m'a fait sauter au plafond, pas tout à fait, mais je pense qu'il y a certainement de quoi s'inspirer considérablement en ce qui concerne la localisation des sources en EEG et en magnétoencéphalographie. Et donc l'idée ici, c'est à partir de la mesure des signaux, de contrôler un certain avatar bidimensionnel, donc c'est quelque chose de très simple. Il s'agit de contrôler le mouvement peut-être d'une souris ou d'un point sur l'écran à partir de la mesure et de l'interprétation d'un certain nombre d'états mentaux de la personne. Donc il y a un mélange ici entre traitement du signal, analyse des signaux corporels, ici cérébraux, et le problème des techniques d'apprentissage machine, enfin machine learning, l'apprentissage machine, qui je pense peuvent conduire à des nouveaux modes d'interaction avec nos machines informatiques. Et je terminerai sur cette dernière transparence. Merci encore.
Merci beaucoup.
C'était Olivier Faugiras, professeur à l'ENS à Paris, et Alinria Sophie Antipolis, membre de l'Académie des sciences. Il s'exprimait avec l'orateur précédent Matthias Fink, du laboratoire Ondes et Acoustiques de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, également membre de l'Académie des sciences, dans un colloque organisé par l'Académie en février 2009 sur le traitement de l'information. Canal Académie a fait le choix de retransmettre ce colloque en deux parties. Retrouvez le deuxième volet sur le site Canal Académie où vous pourrez entendre Claude Béraud et le prix Nobel Albert Fert, tous deux membres également de l'Académie des sciences. Merci de votre écoute et à très vite pour de prochaines retransmissions.